VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et à tous, Anastasie Tudiech avec vous. Il est 17h30 en temps universel. Au sommaire ce soir, au Kenya, après avoir été invalidée, l'élection présidentielle est reportée. En Ouganda, la police a dispersé une manifestation d'étudiants à l'aide de gaz lacrymogène. En République démocratique du Congo, libération des personnes arrêtées hier à Kinshasa. Et puis épidémie de choléra dans l'est du Tchad. Le monde aujourd'hui, c'est aussi le sport et la Minute Éco, mais d'abord le journal. La nouvelle élection présidentielle kényane, prévue le 17 octobre à la suite de l'invalidation de la réélection d'Uhuru Kenyatta, a été repoussée au 26 octobre. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale. Nathalie Barge.
L'annonce intervient au lendemain de la publication du jugement détaillé de la Cour suprême qui a reproché à la commission électorale de ne pas avoir permis l'accès à ses serveurs informatiques pour vérifier des accusations de piratage. Le jugement affecte les opérations électorales, en particulier la technologie qui doit être déployée, a précisé la commission. Plus tôt dans la journée, le président Uhuru Kenyatta a accusé la Cour suprême d'avoir perpétré un coup d'État. Ici au Kenya, nous avons écrit l'histoire, car un coup d'État a été mené par 4 personnes dans un tribunal, a-t-il déclaré en référence au jugement du 1er septembre invalidant les élections. Le jugement de quelques personnes a réduit à néant les progrès réalisés au fil des ans, a ajouté M. Kenyatta, estimant que cette décision avait miné la démocratie. Le vice-président William Ruto, qui a également pris la parole, a quant à lui évoqué une tyrannie de la justice.
La police ougandaise a tiré des gaz lacrymogènes ce jeudi pour disperser des manifestants protestant contre un projet de loi qui éliminerait la limite d'âge et permettrait alors à Yoweri Museveni de se représenter aux élections présidentielles. Des précisions d'Ilidico.
La tentative de modification de la constitution ougandaise rencontre une forte résistance des militants de l'opposition, des organisations de la société civile, des chefs religieux et même de certains membres du parti au pouvoir. La marche a commencé lorsque des étudiants de Makerere, université publique de la capitale Kampala, se sont réunis vers le Parlement pour dénoncer le projet de loi visant à permettre à l'actuel président de briguer un autre mandat. À 73 ans, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis plus de 3 décennies, n'est plus éligible au scrutin de 2021 car la constitution ougandaise plafonne l'âge des candidats à 75 ans. La tentative de modification de la législation rappelle des tactiques similaires utilisées au Rwanda, au Burundi et en RDC pour étendre les limites de mandat, une tendance qui alarme les observateurs internationaux. Selon Reuters, la police avait perquisitionné mercredi les locaux d'au moins 2 organisations pro-démocratiques de la capitale, des raids que l'ambassade américaine à Kampala a sévèrement condamnés dans un communiqué.
En République démocratique du Congo, la 20aine de personnes arrêtées hier à Kinshasa a été libérée. Ces personnes manifestaient contre la prochaine annulation des passeports semi-biométriques. Cette décision du gouvernement a ouvert un nouveau front de tension politique en République démocratique du Congo et la Lucha, acronyme du mouvement Lutte pour le changement, à l'origine de la manifestation, prévoit l'organisation d'une autre manifestation pacifique au ministère des Affaires étrangères pour continuer à, je cite, exiger la levée de la mesure insensée du gouvernement. Nous y reviendrons en deuxième partie de ce journal, en partie magazine. Au Tchad, plus de 50 personnes sont décédées du choléra. Les autorités parlent désormais d'épidémie. Le seuil épidémique a été déclenché lundi 18 septembre par le gouvernement, qui affirme avoir mis en place une cellule de crise. 5 personnes ont été enlevées par des pirates alors qu'elles se trouvaient à bord d'un navire de marchandises battant pavillon camerounais près de la côte du sud du Nigeria, a-t-on appris ce jeudi de sources policières. L'attaque s'est produite lundi soir près de Parrot Island, au sud de la capitale de l'état de Cross River, à Calabar. Au Togo, l'opposition a appelé une nouvelle fois les Togolais à descendre dans les rues afin de ne pas relâcher la pression sur le pouvoir après les marches historiques des 6 et 7 septembre qui avaient rassemblé plus de 100 000 personnes. En ouverture de la marche, les représentants des 14 partis d'opposition ont donné une conférence de presse dans la capitale, Lomé, lors de laquelle ils ont rappelé le décès d'un enfant de 9 ans à Mango, dans l'extrême nord du pays, et ont regretté la répression sauvage des manifestations, c'est ainsi qu'ils les ont qualifiés dans le Grand Nord, que le, je cite, « pouvoir a toujours considéré comme sa chasse gardée ». Amnesty International appelle à l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale sur les circonstances de la mort de l'enfant à Mango et l'usage excessif de la force par les forces de sécurité. En Afrique du Sud, dans la course à la direction de l'ANC, elle fait figure de favorite avec l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa. Nkosazana Dlamini Zuma a retrouvé aujourd'hui un siège de député laissé vacant par un député démissionnaire, ce que les analystes traduisent comme une nouvelle étape dans sa campagne pour prendre la direction de l'ANC au pouvoir et à terme succéder à l'actuel président à la tête du pays. Le Congrès national africain, l'ANC, doit élire en décembre son nouveau chef en remplacement de M. Zuma, un poste clé puisque le leader du parti, qui sortira vainqueur des élections générales de 2019, deviendra chef de l'État.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Actualité internationale à présent sur VOA Afrique. Suite des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, les chefs d'État se succèdent à la tribune, parmi lesquels ceux du continent africain. Le président Roch-Marc Christian Kabore a parlé de la lutte contre le terrorisme dans son pays, le Burkina Faso.
Nous accordons une attention particulière au nord de notre pays. Nous y avons certes enregistré des succès sur le plan opérationnel, mais ceci mérite d'être renforcé par un programme d'urgence d'investissement que nous avons récemment adopté afin de réduire la vulnérabilité des populations, surtout des jeunes et des femmes. Cependant, et on ne le dira jamais assez, le terrorisme est aussi un fléau global. Parce qu'il frappe sans discrimination, il appelle une condamnation claire et ferme de tous.
Le président Ali Bongo Ondimba a quant à lui évoqué les difficultés économiques auxquelles fait face le Gabon. Écoutons-le.
La crise qui frappe la planète n'épargne pas le Gabon. Elle s'y traduit par un ralentissement de l'activité économique ayant un impact négatif sur l'emploi et notamment celui des jeunes. Pour y faire face, le gouvernement a adopté un programme de relance économique devant impulser une dynamique économique nouvelle sur la base de mesures d'ajustement budgétaire, de développement des infrastructures et de promotion du secteur privé en tant que levier de la diversification et de la transformation de l'économie.
C'était le président Ali Bongo aux Nations Unies. Vous pouvez suivre en direct ses discours sur voaafrique.com. L'ouragan Maria continue de sévir, dévaster l'île de Porto Rico, se préparait aujourd'hui à des inondations potentiellement catastrophiques, avec des pluies torrentielles attendues dans les deux jours qui viennent. La République dominicaine a été également frappée aujourd'hui par des vents violents, Saloua Jafari.
À Porto Rico, l'ouragan a laissé derrière lui d'innombrables toitures arrachées, des immeubles détruits et des villes sous l'eau, obligeant des dizaines de milliers de personnes à se presser dans les refuges. Le Centre américain des ouragans a annoncé que l'île devait s'attendre à 50 à 75 cm de pluie d'ici samedi, voire 90 cm par endroit. L'ouragan oscille entre les catégories 4 et 5 lorsqu'il a atteint Porto Rico et la tempête la plus dévastatrice qu'ait connue l'île en un siècle, a déclaré le gouverneur portoricain. Comme Porto Rico, ce sont plusieurs îles de la Caraïbe déjà mises à mal par Irma la semaine dernière qui doivent de nouveau faire face à leur lot d'inondations, de toits et d'arbres arrachés. En Guadeloupe, au moins 2 personnes sont mortes et 2 autres sont portées disparues en mer après le passage de Maria mardi. Plus au sud, sur l'île de la Dominique, elle aussi totalement ravagée mardi par Maria, 7 personnes ont perdu la vie. Mais les autorités ont prévenu que le bilan pourrait encore s'alourdir, les vents violents rendant difficiles et parfois impossibles les opérations de secours.
Et côté européen, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas vont coordonner leurs moyens militaires d'acheminement de l'aide à la Caraïbe. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre française des Armées, Florence Parly. L'opération baptisée Albatros vise à suivre en temps réel la situation logistique dans la zone. Les autorités françaises ont été critiquées par certains sinistrés et l'opposition pour avoir tardé à envoyer des secours, des critiques rejetées par le président Macron. L'Europe, où les trois quarts des musulmans qui y sont installés se disent attachés au pays dans lequel ils vivent et témoignent d'un taux élevé de confiance dans les institutions, même si plus d'un tiers se sont sentis discriminés en raison de leurs origines, selon une vaste enquête publiée ce jour. Et la France se distingue dans l'enquête par un taux de confiance dans le système judiciaire et la police, plus important chez les immigrés de première génération que chez leurs enfants. Le pape François a réitéré sa promesse de tolérance zéro face aux prêtres pédophiles. Un abus sur mineur, s'il est prouvé, est suffisant pour qu'un appel ne soit pas recevable, a-t-il affirmé. Si les preuves sont là, la peine est définitive, a-t-il ajouté. Ajoutant, je cite, que pour ce qui est des demandes de grâce au pape, moi, pour ces crimes, je ne signerai rien. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Ekia Badou.
La campagne agricole 2017-2018 de l'Office du Niger se déroule dans de bonnes conditions dans le cercle de Massina, au centre du Mali. La production totale attendue au niveau de la zone est de plus de 100 000 tonnes. Mais malgré ces bonnes perspectives, les experts alertent sur le risque d'insécurité alimentaire si rien n'est fait d'ici la fin de la saison à cause de la mauvaise répartition des pluies, la dégradation du réseau de distribution d'eau et le vol d'eau d'irrigation par certains paysans de la zone. Toujours au Mali, les douanes ont enregistré plus de 50 milliards de francs CFA de recettes au mois d'août. Selon le quotidien privé Nouvel Horizon, derrière ce record historique se trouve un mécanisme mis en place par le directeur général, l'inspecteur Ali Koulibaly. Le Sidonia, un nouveau logiciel, a pour objectif de garantir la traçabilité des opérations de dédouanement. Ainsi, les informations sur les marchandises sont enregistrées à chaque point de contrôle durant leur acheminement, ce qui permet de savoir avec précision les dates de passage au point de contrôle, le suivi par ces marchandises et les retards subis. À Dakar, à l'issue d'une mission de contrôle menée du 7 au 19 septembre 2017, le FMI s'est inquiété de l'endettement du pays. Le service de la dette, soit la somme que le Sénégal doit payer chaque année pour honorer sa dette, s'est élevé à 24% des recettes de l'État en 2014 et devrait passer à 30% d'ici la fin 2017.
Place au sport à présent avec vous, Nicolas Pinault. Bonsoir.
Oui, bonsoir Anastasie, bonsoir à tous.
On commence avec du football et le tournoi de l'UFOA, demi-finale de la Coupe UFOA.
Et dans la première demi-finale, le Nigeria qui a battu le Bénin 1-0, un but d'Ali Rabiot à la 11e minute de jeu. La deuxième demi-finale va opposer le Ghana au Niger. Les deux rencontres ont lieu à Cape Coast.
Et puis Manchester, toujours plus riche.
Manchester United a annoncé des recettes records pour la saison écoulée, qui a vu le club mancunien réussir le triplé Europa League, Coupe de la Ligue et Community Shield et se qualifier pour la Ligue des Champions. La saison dernière, tenez-vous bien, Manchester United a généré des recettes de 659 millions d'euros. Des résultats en hausse malgré l'absence des Red Devils dans la lucrative Ligue des Champions, mais qui s'explique par la bonne saison des hommes de José Mourinho, vainqueur de 3 trophées la saison dernière.
Le Real chute malgré le retour de Ronaldo.
Et oui, le Real qui avait marqué lors des 73 derniers matchs n'a pas trouvé la faille contre le Betis Séville. Malgré la fin de suspension de CR7, Cristiano Ronaldo qui a pu fouler la pelouse de Santiago Bernabéu. Mais après 5 journées, le Real a déjà 7 points de retard sur le leader barcelonais. A noter que le deuxième Séville a battu Las Palmas 1-0.
Dortmund a récupéré sa place de leader en Allemagne.
En s'imposant sur la pelouse de Hambourg ce mercredi lors de la 5e journée de Bundesliga 3-0, le Borussia Dortmund a repris sa place de leader. Hoffenheim, qui a battu Mayence 3-2, grimpe sur le podium.
Et puis Nicolas, on joue aussi en Italie.
Oui, Naples a conservé la tête de la Serie A hier soir en renversant la Lazio de Rome 4-1. La Juventus Turin a fait le nécessaire pour battre la Fiorentina 1-0 et suit ainsi le rythme des hommes de Sarri.
Parlons enfin des quarts de coupe de finale retour de la Coupe de la Confédération, la Coupe CAF.
Dès demain, le CS Sfaxien accueille le FUS de Rabat après sa défaite 1-0 au Maroc. Les Corbeaux de Mazembe ont déjà un pied en finale après leur victoire 2-1 au Soudan face à Al Hilal Obied. Accroché à domicile à Pretoria 0-0, Supersport United se déplace en Zambie chez le Zesco. Enfin, après l'ambiance tendue au match aller au stade du 5 juillet où des incidents ont eu lieu, le club tunisien devra battre le Mouloudia Club d'Alger.
Merci Nicolas Tino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et voici nos dossiers du jour. Polémique à Kinshasa après la décision du gouvernement d'invalider dans un mois les passeports semi-biométriques que détiennent de nombreux Congolais vivant au pays comme à l'étranger. Des manifestants contre cette mesure ont même été arrêtés, puis relâchés, et un député de l'opposition a déposé plainte aujourd'hui devant la Cour suprême de justice et la Cour constitutionnelle dans l'espoir d'obtenir l'annulation de cette décision. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Près d'une semaine après l'annonce par le vice-ministre des Affaires étrangères de l'invalidation à partir du 16 octobre prochain du passeport semi-biométrique pour laisser place au biométrique, la polémique est loin de s'arrêter à Kinshasa. Des acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité présidentielle ont condamné cette décision. Parmi eux, Yves Kisombe, communicateur de la majorité présidentielle et ancien vice-ministre des Affaires étrangères.
Je ne comprends pas très bien la raison d'être de cette mesure qui manifestement pose un problème de droit et en plus soulève le tollé dans l'opinion comme rarement cela se fait.
Comme lui, de nombreuses personnalités de la majorité présidentielle ont manifesté leur désapprobation et demandé au gouvernement l'annulation de cette décision. Le député de l'opposition Toussé Alonga va lui attaquer dès ce jeudi 22 septembre la mesure devant la Cour suprême de justice et la Cour constitutionnelle.
J'ai pris ma respectueuse liberté contre une mesure fondamentalement arbitraire. Cette mesure porte en torse aux droits acquis de nombreux Congolais, que ce soit sur le plan intérieur comme à l'extérieur. Ces Congolais ont acquis le passeport à titre onéré, plus ou moins 200 dollars pour chaque passeport. Et ce passeport a une durée au terme du contenu même de ces documents. Nous avons estimé déposer des plaintes croisées à la fois à la Cour suprême de justice et devant la Cour constitutionnelle, que la Cour constate que cette mesure viole les dispositions de la Constitution, que la Cour déclare la mesure inconstitutionnelle.
Dans l'opinion, l'annonce du vice-ministre des Affaires étrangères a provoqué un tollé. Un groupe d'une trentaine de personnes manifestant ce mercredi devant le siège du ministère des Affaires étrangères a été arrêté puis relâché par la police. Des personnes interrogées dans les rues de Kinshasa parlent d'une décision injuste et non à propos.
Bon, notre gouvernement, depuis qu'ils ont commencé avec cette affaire, ils n'ont jamais uniformisé les passeports biométriques jusqu'à aujourd'hui. Dans ce cas, moi, je pourrais dire que c'est irresponsabilité de leur part. Je suis malade, je vais aller en Europe pour aller me faire soigner. Donc, je vais mourir ici au Congo. C'est une façon de souffrir la population congolaise. C'est pas normal.
Et nous, quand nous allons remettre ce que nous avons déjà, c'est qu'il faudra encore payer quelque chose, ou bien ça se fera automatiquement, ou bien gratuitement, je ne sais pas. Si ça va se faire automatiquement, et vous remettez, on vous remet l'autre sans payer quelque chose, là ça, c'est une bonne décision.
La pression monte donc, des députés promettent d'interpeller le ministre des Affaires étrangères, Léonard Cheikh-Tidiane, une fois de retour au pays. À travers un communiqué, le gouvernement a confirmé la mesure et en a expliqué le bien fondé pour la population. Cette affaire de passeport est loin d'être terminée. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le point sur l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Parmi les sujets épineux à l'agenda, l'impasse politique en RD Congo, les affrontements ethniques en Centrafrique, le terrorisme au Sahel, mais aussi la Corée du Nord et la réforme de l'ONU elle-même. Que peut attendre à l'Afrique de ce rendez-vous diplomatique? Le projet de réforme de l'ONU affectera-t-il le continent? Y aura-t-il des solutions concrètes aux conflits et autres grands défis mondiaux? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
flambée de choléra dans l'est du Tchad, dans la région de Sila. Une trentaine de villages sont touchés par cette épidémie, faisant plusieurs victimes. Mais l'aide d'urgence n'arrive pas dans certaines localités du fait de l'inaccessibilité de la région. André Kodmajingar nous fait le point.
Le premier cas a été notifié en août dernier dans le district sanitaire de Koukou Angarana, un village situé proche de la frontière soudanaise. Aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine de villages dans la région de Sila qui sont touchés par cette épidémie. D'autres cas ont été également signalés dans le district sanitaire du Salamat, une région voisine. Une situation que déplore MSF Médecins Sans Frontières Hollande qui œuvre aux côtés du gouvernement tchadien dans la zone de l'est du Tchad dans le domaine sanitaire. Roland Kaya, chef de mission du MSF Hollande, parle des facteurs déclencheur de ce sinistre dans la zone.
C'est lié aux conditions d'hygiène et d'assainissement, particulièrement l'eau de boisson, c'est la première source de contamination, et aussi la façon dont on manipule les malades, la façon dont on manipule les corps des personnes décédées du choléra. Et vous savez, dans la culture africaine, quand une personne meurt, tout le monde fait toucher, et dans cet élan de solidarité, on oublie parfois de respecter certaines règles d'hygiène de base, comme se laver les mains après avoir salué, se laver les mains après les toilettes, ainsi de suite. Et ça fait que la maladie se propage très vite.
Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr Jabar Hamid, donne les statistiques et parle des moyens de prévention.
En date d'aujourd'hui, le nombre total des cas s'élève à 372 cas avec 52 décès, soit un taux de létalité de 14%. Du côté du ministère de la Santé publique, en dehors du dispositif de prise en charge, plusieurs autres activités ont été menées, notamment l'organisation du plaidoyer à l'endroit des leaders d'opinion, les autorités administratives, des religieuses et coutumières, à l'endroit des femmes ménagères, des chefs de concession, des vendeurs des denrées alimentaires, l'organisation des prêches dans les églises et mosquées pour réduire le risque de propagation de la maladie.
Huit autres villages touchés par cette épidémie sont inaccessibles faute de difficultés d'accès dues à la montée des fleuves et rivières appelées Wadi dans la langue du terroir en raison des pluies diluviennes, alors que la mortalité dans ces villages avoisine 30%. À cela s'ajoute le manque d'infrastructures de santé et de personnel formé à la prise en charge efficiente des malades. Toutefois, Roland Kaya du MSF affirme que l'institution dont il dirige fait de son mieux pour venir en aide aux victimes.
Les zones sont très difficiles d'accès. Cependant, les équipes font de leur mieux avec les moyens de bord pour atteindre ceux qui sont de l'autre côté. Et nous sensibilisons beaucoup plus les communautés locales d'organiser un système de référence de façon que dès qu'ils suspectent des cas de diarrhée, qu'ils puissent les ramener directement aux unités de traitement.
André Kodmajingar Ndjamena pour VOA. Afrique.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous inviter à participer à l'émission interactive à votre avis à 18h temps universel ce jeudi sur VOA Afrique. Quels sont les enjeux de l'Union africaine en matière de paix et sécurité? À votre avis, est-elle suffisamment impliquée dans les questions de sécurité en Afrique? Que pensez-vous des missions de maintien de la paix de l'Union africaine? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. A tout à l'heure sur VOA Afrique.
En République centrafricaine, une soixantaine d'ex-combattants viennent d'être intégrés dans l'armée nationale. Ils ont été désarmés dans le cadre du projet pilote du DDR, processus de désarmement et de réinsertion, appuyé par la communauté internationale. C'est une correspondance à Bangui de Freeman Sipila.
Lancé fin août dernier à Bangui, le projet pilote du programme de désarmement prend en compte au moins 560 ex-combattants issus de 14 groupes armés. En plus de la capitale, 7 autres sites sont retenus à l'intérieur du pays pour cette opération. Plus de 150 désarmés devront regagner les rangs des forces armées centrafricaines alors que le reste sera orienté vers la réintégration socio-économique. À Bangui, le travail mené en collaboration avec la MINUSCA, la mission de l'ONU pour la paix, a été un succès. Plusieurs armes, munitions et autres objets létaux ont été collectés. Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA.
À Bangui, l'opération d'enregistrement a permis de désarmer et de démobiliser 109 combattants, dont 6 femmes. Il y avait 2 enfants parmi les combattants qui ont été remis immédiatement à l'UNICEF. Au cours de l'opération également, 86 armes de guerre, 16 armes de fabrication artisanale, 31 grenades, 1 roquette, 12 mortiers et 415 munitions ont été récupérées. Les groupes armés concernés par ce processus à Bangui sont les Antibalaka Faction Mokom, Antibalaka Faction Gaïsona, le MLCJ, c'est-à-dire le Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice, le MPC, le Mouvement Patriotique pour la Centrafrique, le RJ, Révolution et Justice, Faction Belanga, le RJ, Faction Sayo, la Seleka Rénovée, ainsi que l'Union des Forces Républicaines Fondamentales.
Pour rassurer les autres éléments en province, une soixantaine déjà désarmés ici à Bangui a obtenu cette semaine les matricules pour intégrer les rangs des forces armées centrafricaines. Ils ont été briefés par Marie-Noël Kouyara, ministre de la Défense.
Vous faites partie intégrante de l'armée centrafricaine parce que vous avez des numéros de matricule. C'est ça votre carte d'identité. Vous devez à partir de maintenant observer la discipline, la rigueur et le respect de la hiérarchie, le respect de l'autorité civile. Vous allez bientôt commencer des séries de formations. Et parmi ces formations, on va beaucoup vous parler sur le droit de l'homme. Il faut que vous appreniez à comprendre c'est quoi le droit de l'homme. Vous allez vous habituer à des termes militaires. On va vous habituer aussi au secret militaire.
Bangui a été un succès. Qu'en sera-t-il pour les régions du pays encore en proie aux violences? La coordination des groupes armés annonce que des dispositions sont déjà prises pour la réalisation du programme dans les zones retenues. Colonel Larry Mahalba, coordinateur.
Au fur et à mesure, on est en train d'avancer dans les provinces et les gens sont en train d'être pris en compte. Nous ne soutenons pas, mais nous soutenons ce que le peuple centrafricain veut, c'est-à-dire la paix, et que le chef de l'État aussi est un homme de paix, et nous l'avons constaté. C'est comme ça que nous voulons réussir cette mission de ramener la paix pour être rentrés dans l'histoire.
La prochaine étape sera à Bouar, dans l'ouest du pays. Ce projet financé par la communauté internationale est un test pour le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement proprement dit, qui sera exécuté sur l'ensemble du pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Brazzaville est toujours dans l'attente d'une mission du FMI qui aiderait le pays à mettre en place des réformes pour sortir de la crise économique. En marge de la 72e Assemblée générale à New York, le président congolais Denis Sassou Nguesso a rencontré la directrice générale du FMI qui lui a assuré que son institution était disposée à aider le Congo. À Brazzaville, le FMI est attendu comme le Messie, nous dit notre correspondant Ngwela Ngusu.
En séjour à New York, à l'occasion de la 72e Assemblée Générale de l'ONU, le président Sassou Nguesso a rencontré Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international. Il en ressort que l'institution de Bretton Woods reste déterminée à aider le Congo. À Brazzaville, l'attente d'une mission du FMI devient longue. Dans les administrations ou dans les entreprises, dans les arrêts des bus ou dans les débuts de boissons, on ne parle que de l'arrivée du FMI. Éric Patrick Mampouya.
Le FMI n'est pas une panacée, mais le FMI peut nous aider beaucoup à gouverner notre pays. Effectivement, les retraités ne sont plus payés, les fonctionnaires ne sont pas payés. On se demande bien pourquoi. Et pourtant, il y a de l'argent dans ce pays. Il y a de l'argent qui est caché quelque part et tout et tout. Et donc, on attend vraiment la décision du FMI. Si le FMI arrive et qu'il prenne des bonnes décisions, on pense que notre pays va retrouver un peu d'espoir.
Les attentes sont grandes, vu le niveau de pauvreté dans lequel les populations vivent actuellement. Augustin Benazo est un analyste économique.
Et je pense que les populations n'ont pas tort parce que notre gouvernement ne communique pas de façon pour leur dire quelles sont les mesures à prendre et rassurer un peu également les hommes d'affaires, rassurer les commerçants, rassurer les populations. Voilà. Donc c'est important que le gouvernement le fasse pour éviter que les gens puissent dire tout ce qu'ils peuvent avoir dans la tête et puis le balancer comme ça. Alors que nous sommes dans une situation où nous pensons que avec l'arrivée du FMI, l'appui du FMI, ça pourra s'améliorer.
La société civile estime que cette fois-ci, le FMI doit tenir compte de son point de vue. Pour Franck Nzila Malembe du mouvement Le Ras-le-Bol Citoyen, le FMI devrait associer leur voix à ces nouvelles discussions.
Nous avons dit au FMI qu'il n'est pas nécessaire d'aider un gouvernement qui n'arrive pas justement à établir des préalables, à mettre en place un certain nombre de réformes internes au Congo avant de recevoir ces milliards-là. Et donc c'est ce que nous disons au peuple congolais. Nous sommes d'accord avec ce peuple qui dit que FMI ou pas FMI, depuis 20 ans les choses ne changent pas.
Entre le FMI et le Congo, il y a cette histoire de dette cachée qui aurait atteint les 120% du produit intérieur brut. Interrogé si au sein du gouvernement on en parle, voici la réponse de l'ancienne ministre du Commerce,
Claudine Mounari.
Si l'Assemblée nationale n'a pas ces informations-là, comment voulez-vous que nous l'ayons? La dette est opaque, pas seulement pour le peuple congolais, la dette est opaque même pour certains membres du gouvernement. Dans ce pays, il y a une classification qui se fait, je ne sais comment, mais bon, il y a des choses qui se discutent ici et pas là. Et moi, je n'en sais rien.
Brazzaville reste suspendu à la mission du FMI que beaucoup attendent, comme la venue du Messie, Nguelangos. Brazzaville, VOA Afrique.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur VOA Afrique. La mise en onde a été réalisée par Georges Léonard Sagnot avec la complicité et la technique de Adrius. Je suis Anastasie Tudiège. Restez connectés pour l'actualité 24h sur 24 sur la page Facebook de VOA Afrique et sur voafrique.com. Très belle soirée à l'écoute de VOA Afrique.